VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Nouakchott, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. Corne de l'Afrique, les islamistes somaliens Chebab ont affirmé avoir repoussé dans la nuit de lundi à mardi une attaque impliquant des membres des forces spéciales américaines près de la ville de Toratoro, à 60 km au sud de la capitale de la Somalie, Mogadiscio. Les détails avec Nani Talani.
Des habitants ont confirmé qu'un raid héliporté mené par des troupes lourdement armées avait eu lieu pendant plus de 40 minutes sans pouvoir attester de l'identité des soldats. Dans un communiqué publié sur le compte Instagram de leur antenne Radio Andalus, les Chebab affiliés à Al-Qaïda ont indiqué avoir été informés à l'avance de l'arrivée des assaillants. D'après leur dire, les forces parties à leur poursuite ont repoussé les Américains. Il y a eu de durs combats pendant un moment. Les hélicoptères ont atterri et les ont ramassés sans qu'ils aient réussi leur mission. Selon différentes sources, des commandos somaliens entraînés par l'armée américaine pourraient avoir pris part à cette attaque. Il n'était pas possible de déterminer quelle était la cible exacte de cette opération. De tels raids héliportés ne sont normalement menés que pour secourir des otages ou éliminer de hauts dirigeants Chebab.
Toujours dans la Corne de l'Afrique, 19 enfants enlevés en Éthiopie le mois dernier par des hommes armés venus du Soudan du Sud ont été libérés sains et saufs grâce à la médiation des autorités sud-soudanaises. Ils ont été ramenés hier à Gambela, dans l'ouest de l'Éthiopie, leur région d'origine. Les ex-captifs font partie des plus de 100 enfants enlevés le 15 avril lors d'un raid meurtrier d'hommes armés de l'ethnie Mourlé contre des villages habités par des membres de l'ethnie Nuer en Éthiopie. Attaque qui a fait 208 morts et entraîné le vol de quelques 2000 têtes de bétail. Addis Abeba fait état de négociations en cours pour libérer les autres enfants éthiopiens captifs au Soudan du Sud. L'agence de l'ONU pour les réfugiés appelle le Kenya à revenir sur sa décision de fermer les camps de réfugiés somaliens et sud-soudanais qui, selon Nairobi, posent de sérieux problèmes de sécurité. Les précisions de Michel Joseph.
Le HCR réagissait à l'annonce vendredi par le ministère kényan de l'Intérieur d'un projet de fermer, dans les délais les plus brefs possibles, le vaste camp de Dadaab, qui abrite quelque 350 000 réfugiés, essentiellement somaliens. Nairobi envisage de faire de même du camp de Kakuma, qui s'est progressivement étendu à la faveur de plus de 2 ans de conflit au Soudan du Sud voisin. Appelant les autorités kényanes à revoir leur position, l'agence onusienne en charge des réfugiés leur a, par la même occasion, rappelé qu'une fermeture des camps dans les conditions actuelles pourrait violer les obligations internationales du Kenya. Dans sa déclaration publiée vendredi, le ministère kényan de l'Intérieur a fait état des immenses défis sécuritaires que pose l'accueil des réfugiés, notamment les attaques des islamistes somaliens d'Al-Shabaab qui ont tué des centaines de personnes au Kenya ces 3 dernières années.
Le 26e Forum économique mondial pour l'Afrique consacré aux nouvelles technologies s'ouvre demain à Kigali au Rwanda. Le forum s'inscrit dans le prolongement du forum annuel de Davos en Suisse, lequel s'était penché en janvier sur la 4e révolution industrielle, cette transition numérique de l'économie mondiale qui transforme en profondeur les sociétés. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
Le rendez-vous a pour thème « Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique ». Plus de 1200 participants, entrepreneurs, décideurs ou représentants de la société civile issus de 70 pays aborderont des thèmes comme l'apport de nouvelles technologies dans l'agriculture ou la santé, ou encore comment lutter contre la cybercriminalité qui n'épargne pas le continent. 10 chefs d'État ou de gouvernement africains sont aussi attendus dans la capitale rwandaise. Le Rwanda est encore à majorité rurale, mais il a mis le développement des nouvelles technologies au cœur de sa stratégie de croissance dans un contexte de chute des cours de matières premières qui affecte le revenu de nombreux pays du continent et met en lumière la nécessité de diversifier leur économie.
Génocide de 1994 au Rwanda, 2 ans après un premier procès en France pour les massacres de 1994 qui ont fait au moins 800 000 morts, un deuxième acte s'est ouvert aujourd'hui à Paris où 2 anciens bourgmestres rwandais comparaissent pour leur participation présumée au génocide. Des détails avec John Lyndon.
Octavien Ngezi, 58 ans, et Tito Barahira, 64 ans, qui nient les faits, sont décrits par l'enquête judiciaire comme des donneurs d'ordre. Ils sont accusés d'avoir directement participé au massacre de centaines, voire de milliers de Tutsis en avril 1994 à Kabarondo, essentiellement des réfugiés regroupés dans l'église de cette commune de l'est du Rwanda. À l'ouverture du procès, très calme et attentif, les deux anciens maires ont affirmé qu'ils répondraient aux questions de la cour, ne choisissant pas d'user de leur droit au silence. Les deux hommes qui se sont succédés à la tête de Kabarondo seront jugés pendant 8 semaines pour crimes contre l'humanité et génocide. 38 jours d'audience, un procès compliqué par l'état de santé de Tito Barahira et le désistement tardif d'une magistrate qui a invoqué une clause de conscience.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, la ville de Bamba, dans la région de Gao, a été réveillée très tôt ce matin par des tirs qui ont duré pendant des heures. L'armée nationale malienne a finalement maîtrisé la situation. Le point avec notre correspondant à Gao, Boubacar Touré.
C'est vers 3 heures du matin, heure locale, que des individus armés venus à bord de véhicules ont ouvert le feu sur le poste de contrôle militaire situé à l'entrée de la ville de Bamba. Bamba, une localité située à quelques 200 km au nord de Gao. Le bilan fait état de 2 morts, un du côté de l'armée malienne et un du côté des assaillants. Les populations sont restées terrées chez elles durant de longues heures avant que les forces de sécurité maliennes n'arrivent à reprendre le contrôle. Le calme est revenu et les populations ont repris timidement leurs activités. Il faut signaler que la ville de Bamba a connu plusieurs attaques de ce genre, dont la dernière remonte en décembre 2015. En tout cas, la situation sécuritaire dans la région devient de plus en plus préoccupante. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Côte d'Ivoire, le parquet d'Abidjan a défendu aujourd'hui la régularité du procès de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo et soutenu que la composition du jury critiquée par la défense s'est faite dans le respect du droit. Actuellement incarcérée, l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo sera jugée à partir du 31 mai à Abidjan pour crime contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Elle a déjà été condamnée en mars 2015, également à Abidjan, à 20 ans de prison, notamment pour attentat contre l'autorité de l'État. Hier, sa défense a mis en cause la composition du jury du procès en cours en soulignant qu'il était dominé par les personnes du nord du pays alors que Mme Gbagbo est poursuivie pour avoir fait tuer des gens issus du nord. Plus de détails sur cette affaire avec Maïlis Egol.
Simone Gbagbo est jugée en Côte d'Ivoire parce que les autorités ivoiriennes ont refusé son transfert à la Haye. Maître Rodrigue Dadje, avocat de Mme Gbagbo.
Elle souhaite être jugée par une cour ivoirienne. Pourquoi ? Parce qu'elle est accusée d'avoir commis des crimes vis-à-vis de ses ressortissants, les ressortissants ivoiriens. Donc c'est devant les ressortissants ivoiriens qu'elle a à s'expliquer. Mais n'empêche que la justice ivoirienne n'est pas indépendante et elle est sous la pression du pouvoir politique. Et je dirais qu'il y a de fortes chances qu'elle soit condamnée, même s'il n'y a aucun élément de preuve dans le dossier, comme c'est le cas pour l'instant.
Simone Gbagbo, 70 ans, a déjà été condamnée à 20 ans de prison, mais elle a toujours clamé son innocence. Pour ce nouveau procès, le procureur Sungalo Koulibaly espère que justice sera rendue.
Pour les victimes, j'attends quand même que le droit soit dit, qu'il y ait une justice pour les victimes qui en ont tant souffert. S'il faut la réconciliation, il faut qu'une justice soit rendue.
Si Mme Gbagbo est reconnue coupable, elle risque la prison à perpétuité.
Au Burkina Faso, au moins 2 magistrats travaillant sur l'enquête relative au coup d'État manqué de septembre 2015 ont été dessaisis de ce dossier épineux avec des ramifications diplomatiques. Le point avec Idriss Fall.
Le lieutenant-colonel Norbert Koudougou, procureur militaire, et le juge d'instruction Stéphane Rapadem Naba ont été dessaisis par des décrets présidentiels. Officiellement, il s'agit d'un réaménagement technique. 3 juges d'instruction, 2 militaires et 1 civil instruisaient les dossiers du putsch manqué et de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara. Le 28 avril, la Cour de cassation a annulé pour vice de forme les mandats d'arrêt contre l'ancien président Blaise Compaoré pour son implication présumé dans la mort du président Sankara en 1987 et contre Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, après les désormais fameuses écoutes téléphoniques. Le très médiatisé procureur militaire Norbert Koudougou avait annoncé dès le lendemain que la justice allait réémettre ses mandats d'arrêt contre au moins 17 personnes, dont l'épouse du général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du coup d'État manqué du 17 septembre.
Et pour terminer, le président américain Barack Obama se rendra fin mai à Hiroshima au Japon. Le premier chef de l'exécutif américain en exercice a visité cette ville japonaise détruite par une bombe atomique américaine en 1945.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.